Campus.
Prochain arrêt, dans ton
campus.
Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école.
Campus.
Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard.
Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein.
Campus.
Prochain arrêt. Dans ton campus.
Et oui, dans ton campus, l'émission qui parle de l'actualité de l'Unige. On est de retour, ça fait plaisir, dans le cadre de ce bananathon. Donc, c'est 12 heures de live. Et on va accueillir une invitée ce soir, Leslie Henriquez, qui fait partie du comité d'Uniparty. Salut Leslie, bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors, on me dit à l'oreillette, Leslie, qu'une très très grosse soirée se prépare ce soir à l'Uni de Genève, une soirée Uniparty. J'imagine que certaines personnes qui nous écoutent ont déjà leur billet, leur précieux sésame pour l'une des plus grosses soirées étudiantes de Suisse, qui aura lieu dans quelques heures donc. Mais avant de parler en détail de ce soir, on va peut-être commencer par parler d'Uniparty de manière un petit peu plus générale avec toi. Je crois qu'Uniparty, c'est d'abord une association. Est-ce que tu pourrais nous la présenter vite fait? Quel est l'objectif de l'association?
Oui, alors Uniparty a été créé en 2011 par deux étudiants en médecine, il me semble, qui voulaient inventer un concept pour qu'il y ait des soirées interfacultaires et pas que uniquement à chaque faculté. Et donc, c'était juste deux potes, deux étudiants qui ont créé Uniparty et puis... depuis, là ça va être la 14e soirée, donc il y a 14 soirées depuis et c'est comme ça que ça a commencé.
Et donc toi tu es responsable communication et secrétaire pour Uniparty, depuis quand est-ce que tu fais ça et qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer ce comité?
Je fais partie d'Uniparty depuis octobre 2021 et j'avais entendu parler de l'association quand j'étais au collège encore. On avait pu visiter, en fait, participer à quelques cours de l'Uni, et puis il y avait quelques associations qui faisaient leur pub. Et j'avais justement entendu parler d'Uniparty, et ça m'avait donné, super envie de comprendre un petit peu mieux le monde de l'événementiel et d'organisation de soirées. Et c'est comme ça qu'en fait, déjà au collège, je m'étais dit « Ah, quand j'irai à l'Uni, j'aimerais bien intégrer Uniparty ».
Eh ben, c'est une bonne idée en tout cas. Je voulais te demander, vous faites combien de soirées Uniparty par an, à peu près, en général?
Alors, généralement, il y a deux grandes soirées qui sont justement, qui ont lieu dans les bâtiments universitaires. J'ai oublié de le dire avant, mais c'est ça un petit peu le principe d'Uniparty, de les faire dans les bâtiments. Donc deux, là, il y en a déjà eu une en octobre 2022, c'était dans le hall de Dufour. Ensuite, il y en a une autre à Unimail, et puis il se peut que parfois on fasse des petites soirées, pas autant de personnes. Il y a eu une fois une soirée entre la boîte du Moulin Rouge et du Point Bar, et en juin dernier, c'était une petite soirée au M Club.
D'accord. Et il y avait une fois au Palladium? Ou alors est-ce que c'était les Saturnales?
Oui, exactement.
C'était Uniparty,
oui,
hein.
Il y avait aussi une fois au Palladium parce qu'on n'avait pas pu la faire à Mail. Et donc, on s'était dit pourquoi pas la faire au Palladium. Ouais, c'est ça.
La question que les auditeurs se posent peut-être, celles et ceux qui ne sont pas à l'Université de Genève, est-ce que ces soirées sont tout publiques? À qui est-ce qu'elles s'adressent, finalement?
À tout le monde, tant que les personnes ont 18 ans ou plus.
D'accord.
Donc, forcément besoin d'être étudiant à l'UniGE, hein, ouais. Ou étudiant d'une autre Uni, ou même pas. Tant qu'on a 18 ans, c'est tout bon.
Bon, on en sait déjà un peu plus sur Uniparty pour les gens qui ne connaissaient pas le concept. Maintenant qu'on a les bases, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots comment s'organise une fête comme celle de ce soir, une fête Uniparty? Quelles sont les différentes étapes qui précèdent le jour de la soirée?
Alors, il y en a beaucoup. Uniparty est séparée en plusieurs pôles. Donc, pôle bar, pôle caisse, pôle logistique, pôle vestiaire, pôle sécurité aussi, pôle communication aussi. Et d'autres sûrement que j'oublie. Et en fait, chaque pôle a ses tâches. Donc, l'organisation se fait plusieurs mois à l'avance, et chaque pôle a une liste de ce qu'ils sont censés faire. Et ensuite, il y a aussi la coordination. Donc là, ce sont deux coprésidents, la trésorière et donc le ou la secrétaire. En fait, chacun sait ce qu'il doit faire, et chacun avance en fonction de ses tâches. Et tout ça en combinaison avec discussion avec la coordination, les coprésidents qui sont aussi là pour nous soutenir, et puis voilà.
Et donc ça commence à peu près combien de temps à l'avance pour préparer une soirée comme celle de ce soir? Les premières étapes, on va dire.
Je pense 3-4 mois à l'avance. En tout cas, pour celle-ci, on a commencé en fait, dès que celle d'octobre était terminée, on a une petit temps de repos, et ensuite après, en décembre, on a déjà commencé à préparer et à regarder ce que chaque pôle devait faire.
Ok. Et donc, j'imagine que quand on se rapproche de la soirée, les derniers jours, les dernières heures, ça devient assez stressant. Comment ça se passe ces derniers moments avant le début de l'événement? Comment vous le vivez?
C'est vrai que c'est assez stressant et ça peut être angoissant parce qu'on se dit toujours « Ah, mais il y a peut-être quelque chose qui va louper, qui va mal se passer ». Mais au final, on essaie tous de penser en tant que collectif et qu'on avance tous ensemble et pas individuellement, chacun pour soi, mais plutôt chacun pour tous. Et puis, c'est vrai que c'est stressant, mais surtout les quelques jours avant la soirée. Mais en fait, c'est juste chouette puisqu'on se retrouve tous ensemble et puis on est tous là les uns pour les autres. Et s'il y a besoin d'aide, on s'aide. Et au final, il faut se dire que tout va bien se passer. Donc...
C'est sûr que tout va bien se passer. Je crois que vous avez aussi beaucoup de bénévoles qui s'engagent pour la soirée, pour que ça se passe bien, justement. Est-ce que tu sais combien il y a de bénévoles au total, pour une soirée comme celle de ce soir, par exemple?
Oui, alors, il y aura environ 100 bénévoles, sachant qu'il y a 2800 à 3000 personnes qui sont attendues. Il faut assez de bénévoles, surtout pour le bar, la caisse, la sécurité aussi et le vestiaire. C'est les quatre pôles principaux où il y a le besoin de plus de bénévoles. Donc il me semble entre 80 et 100.
Et puis à la fin de la soirée, à 6h du mat, il y a tout de suite des bénévoles qui vont s'activer pour tout ranger ou tout le monde va dormir et vous le faites un peu plus tard?
Alors, les bénévoles partent à 6h ou selon l'heure
à la fin de la soirée.
Voilà. Ouais. Quand ils ont le droit de partir. Et ensuite restent les membres du comité. Donc on est 16 membres. Et c'est nous qui rangeons tout.
D'accord.
Du coup, si on a des amis ou de la famille qui peut venir nous aider, c'est super. Mais sinon, c'est nous qui faisons tout. Et dès 6 heures, on enlève les barrières de sécurité, les fosters, les panneaux, et on s'active. Voilà. Et
donc, tout est rangé directement dès 6 heures.
Tout est rangé directement. Et là, c'est vrai que... On s'est dit que ça faisait du bien quand même quelques pauses, pas de tout faire d'un coup parce que ça peut être super fatigant, tout le monde est fatigué, personne n'a dormi. Donc il y a aussi des tournus, quelques personnes se reposent, dorment un petit peu et ensuite vont travailler. Et puis les autres qui ont travaillé pendant ce temps vont se reposer. Et puis, voilà.
En tout cas, on comprend bien que c'est une grosse organisation, tout ça, que ce soit avant, pendant et après la soirée. J'ai encore une question sur l'après-soirée. En général, vous faites combien de thunes? C'est ça qui intéresse les gens. Est-ce que les coûts d'organisation sont amortis avec, par exemple, les recettes du bar, etc.?
Alors...
Je ne sais pas si tu as ces informations ou si tu peux les transmettre.
Alors ça, je peux dire uniquement après la soirée. Parce que là, normalement, les coûts sont amortis. Mais après, il faut aussi voir est-ce que beaucoup de personnes vont acheter des boissons ou
ouais.
pas. Est-ce que beaucoup de personnes vont aller déposer leurs affaires au vestiaire aussi. Donc le vrai bilan qu'on pourrait faire, ce serait après la soirée, en fait, dès qu'on a fini de compter l'argent. Et compter l'argent, ça se fait aussi après la soirée à 6h du matin.
D'accord, donc ça se fait aussi tout de suite. Mais en général, vous constatez que les coûts sont largement amortis pour la plupart des soirées.
Oui, quand même. En tout cas, on essaye et on essaye surtout de voir, en fait, de ne pas partir du principe qu'une soirée va forcément être sold out, mais peut-être qu'elle sera vendue, à 70%. Et on essaie de compter à partir de ce moment-là.
Ok. Mais écoute, Leslie, si t'es d'accord, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de la grosse fiesta de ce soir Inimai. Elle est sold out, donc tu le disais, il y a des soirées qui sont sold out, il y a des soirées qui ne le sont pas. Ce soir, c'est sold out, tous les billets sont partis. Il y aura combien de personnes, du coup?
Il y aura 2800 personnes, et les autres 200 personnes sont les membres du comité, les bénévoles, et il y a également des membres d'honneur. Les membres de la zone H, qui sont les personnes qui ont fait partie de l'association Uniparty avant et qui ont le droit de venir et de profiter de la soirée aussi gratuitement.
Et donc au total, 3000 personnes.
C'est ça, wow. C'est le maximum.
Quel est le thème de la soirée ce soir?
C'est cowboy. Non, c'est western. Et pas du tout obligé de se déguiser. Qui a envie de se déguiser, peu. Et ce sera aussi surtout les décorations, en fait. Qui seront
Il y a tout un décor
western.
Qui a été installé.
Ouais.
Magnifique. Et pourquoi thème western? Pourquoi avoir choisi cette thématique? Est-ce que tu sais?
Alors, le choix du thème, c'est... Chaque membre a pu donner des idées de thème. Donc, c'était vraiment hyper vaste. Je crois qu'au début, on avait 30 thèmes ou quelque chose du genre. Et ensuite, on a essayé d'en arriver à 4 thèmes. Et ensuite, on a refait un vote parmi ces 4 thèmes. Et donc, c'est Western qui est ressorti. Et puis, on essaye de voir que le thème, bah, il y a des idées pour faire de la déco, qu'il y a des idées de déguisement, qu'il y a des idées de lumière, par exemple. Donc, voilà.
Leslie, un point important qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la musique. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi on peut s'attendre niveau programmation musicale pour ce soir ?
Alors, il y a 2 DJ et 1 collectif de DJ. Principalement reggaeton, afro, trap, pop, old style. Et on va aussi essayer de mettre quelques musiques country, mais pas trop, parce que c'est pas du goût de tout le monde, mais voilà, quelques-unes pour être dans le thème.
Ok, donc c'est quand même bien varié niveau musique. On se réjouit de découvrir tout ça, je pense que ça s'annonce très très bien. Mais en vrai, c'est quand même un sacré challenge de faire ça dans un bâtiment universitaire, un gros bâtiment comme Unimail ce soir. C'est un gros défi pour surveiller les gens aussi, j'imagine. Par exemple, on se demandait avec un pote comment faire pour que les gens ne montent pas dans les étages du bâtiment.
Alors, pour éviter ça, on a mis plein de barrières dans les escaliers, devant les chemins, en fait, principalement devant les escaliers. Et voilà, il y a toujours des personnes qui arrivent d'une quelque manière à monter par-dessus ou qui vont essayer en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y a des sécuritas qui ont été engagés, ainsi que des bénévoles aussi sécurité qui étaient d'accord de faire ce travail-là, qui, dès qu'il y a un souci, sont appelés. Et puis, il y en aura en fait plusieurs éparpillés dans le hall, dans la salle, pour éviter qu'il y ait des dérapements.
Et toi, pendant la soirée, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas travailler ou tu vas danser ?
Alors, je vais principalement travailler, puisque je fais partie de l'association. Je pense que je serai au pôle caisse. Je ferai aussi un petit peu de la pub sur Insta. Et j'espère que j'aurai le droit un petit peu aussi de m'amuser. Mais c'est vrai que les membres de l'association, c'est principalement du travail. Mais en même temps, c'est chouette parce qu'on aime faire ça. Et voilà, si on a des petites pauses, c'est chouette aussi, mais ce sera principalement du travail.
Bon, ça reste du travail dans une ambiance sympa.
Oui, quand même.
Tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux ? C'est quoi votre Instagram si on a envie de suivre les stories, etc. ce soir ?
Notre compte Instagram, c'est UnipartyGE. On va mettre plusieurs stories. On a aussi fait déjà un réel de la pré-soirée, de J-1 hier, le rangement, le montage. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez nous suivre.
Nickel. Et dernière petite question pour les gens qui seraient intéressés à vous rejoindre en tant que, pour faire partie du comité ou en tant que bénévole pour la prochaine soirée, ça se passe comment ? Faut faire quoi ?
Alors, si par hasard des personnes veulent intégrer le comité, elles peuvent toujours nous envoyer un DM sur Insta et dire quel pôle les intéresserait. Et pour des potentiels bénévoles pour la prochaine soirée, ça se fera aux alentours de la date de la soirée. Donc là, c'est vrai que pour cette soirée, c'était environ 2 semaines et demie avant. On a posté ça sur Insta. Qui veut être bénévole, qui remplisse le formulaire. Et puis voilà. Donc si on veut être bénévole, il faut être juste attentif 2 semaines avant la prochaine soirée. Et voilà.
Tip top. Bah, je crois qu'on sait tout. Merci beaucoup en tout cas, Leslie, d'être venue.
Merci à vous.
C'était sympa de relancer un peu cette émission dans ton campus en mettant en avant les événements de l'Uni. C'est vrai que c'est toujours sympa de promouvoir ce genre de choses. Bonne soirée à toi et à tous ceux qui, toutes celles et ceux qui iront à Uniparty ou ailleurs ce soir. En attendant, restez avec nous sur Fréquence Banane. Le Bananathon continue dans ton campus, continue. On a du très très lourd au programme. On aura un petit quiz proposé par Maria, un petit jeu ensuite proposé par Sarah. Et puis, tout à l'heure, autour de 18h30, je pense, pour les amateurs de ciné Vidéo Club avec Lucas et son équipe, une émission dédiée, vous l'aurez compris, au 7e art. Juste avant, on écoute Ecstasy. On est toujours dans ton campus, l'émission qui parle de l'Uni et de l'actualité des étudiants. Tout à l'heure, on a eu Leslie qui est venue nous parler de la soirée Uniparty ce soir. Et pour continuer, on va parler toujours de l'Université de Genève avec Maria qui nous a préparé un petit quiz sur l'Uni. C'est juste ?
Oui, c'est exactement ça. Du coup, ce sont un peu des questions de culture pour voir si on connaît bien notre université ou pas, enfin si vous connaissez bien votre université, cette belle université qui est notre deuxième maison, pratiquement. Donc, voilà, je vais poser des questions et vous allez essayer de deviner les réponses. Et après, on peut en discuter si vous trouvez que les réponses finalement sont intéressantes ou pas. Donc à la fin, je vais vous donner la réponse correcte. Après, on peut parler autour de ça. Vous pouvez faire toutes les remarques que vous voulez. Donc je compte sur vous pour être rigolo et, et pour rendre ça intéressant pour tout le monde.
Et donc, si jamais il y a des auditeurs qui veulent jouer avec nous, bien sûr, jouez avec nous, écrivez-nous sur les réseaux. Oui. Si vous connaissez bien l'UNIJ.
Ou si vous connaissez pas du
ou
tout.
Ou même si vous connaissez pas du tout. Aussi, ouais. Exact.
Mais du coup, on fait comment ? On répond chacun son tour ou juste le premier qui sait la réponse, il répond.
Madame, madame, madame.
Ouais.
On buzz, on tape. Ok. Sur son voisin.
Oui, le premier qui sait.
Non, on ne tape pas sur la table à la radio.
Mais moi, j'aime bien taper les tables.
On a une sonnette à la radio. Alors franchement, je préfère qu'on tape sur la table directement. Je pense que tu les installes là. Et ouais, ça se capte.
Ring.
Là, c'est sûr qu'une bonne audima.
Vous pouvez taper sur la table si vous voulez.
Et après, on avait un projet de se transformer en radio ASMR. Je pense que c'est bon départ.
Bon, on peut taper sur la table. Alors on fait un petit cri. Enfin voilà, on se manifeste.
Oui,
quoi.
Oui, exactement. Vous manifestez et on entend quelques réponses. Si vous êtes vraiment loin, 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 bah là, je vous aide un petit peu. Donc, si vous voulez, on peut commencer. Vous êtes chaud? Allez.
Oui. Allez, let's go.
Alors, on va commencer par les bases, vraiment les bases. Quand a été fondée l'UNIJ et par qui?
Ouais, super bien.
Allez, ciao.
Il n'y a personne qui a l'Oudi?
Non, si, si.
Il n'y a pas quelqu'un qui a l'Oudi ici?
Non, non, on a fêté les 200 ans.
Non, 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 non.
On a fêté les 200 ans, alors.
Moi, je dis dring, dring.
Allez, vas-y.
Je vais tenter un guess. Mais je sais que c'est beaucoup plus que 200 ans.
Ah ouais?
Je sais que c'est 1500 quelque chose.
Et oui.
T'es pas loin.
Je suis pas loin. Après, je vais...
1515 par Jean Calvin.
Alors, 1586.
Bien sûr.
Non.
Non, c'était Odeur.
C'est une vente aux enchères.
Qui dit mieux.
Alors, la réponse est 1559. Donc, il y a 464 ans.
Ouais. Wow. Okay.
Par Jean Calvin. Et le nom original de l'UNIJ était Académie de Genève. Et c'était censé être un séminaire théologiste et humaniste où on enseignait la rhétorique, la dialectique, l'hébreu et les grecs anciens. Donc depuis là, ça a
bien évolué. Un peu de contexte historique. Donc le but de former ce genre d'université, c'était pour former les pasteurs qui allaient plus tard aller dans l'entièreté de l'Europe pour prêcher la bonne parole, donc protestante, calviniste. Et donc, c'est un très, très haut lieu de la réflexion calviniste qui a été extrêmement important pour le développement de la religion.
Mesdames et messieurs, les études d'histoire.
C'est moi.
Et donc, 1500 combien ? 59 ?
Oui.
On n'a pas fêté les 200 ans. Je sais pas où tu as vu ça, mais...
Messieurs et mesdames, c'est... la psychologue.
Je sais pas d'où elle tient ces infos, la psychologue, mais...
Ils sont pas chers d'enseigner leur propre histoire dans leurs cours. Écoute.
Alors, la deuxième question, c'est il y a combien de facultés à l'Université de Genève ?
9.
Une vingtaine ? Non, dans faculté ? Non. Il ne faut pas confondre faculté et département.
Moi, je dis 9.
Au département, on en aurait des centaines. Juste en lettres, on a genre 40. Quand
un autre est...
Non, sérieux ?
9, tu dis ? 8,
9. Ouais,
quelque chose comme ça. Moi, je dis un peu plus quand même. Moi, je dirais 10.
Alors, ouais. Science, droit. médecine, traduction, interprétation, psychologie, sciences de l'éducation, lettres.
13.
Droit de l'enfant.
Théologie, n'oublions pas.
Sciences
de la société. Droit de l'enfant. C'est pas une... SDS. Si, le centre interfacultaire en droit de l'enfant.
Ouais, mais interfacultaire, centre interfacultaire, c'est pas une faculté.
Ça compte pas.
Non, c'est fac.
Ça compte pas.
Mais non.
Il faut que ce soit faculté.
Bah, c'est Hugo qui avait la réponse, si jamais.
Mais il non.
Ouais, c'est 9.
Ah, ouais.
Ah, c'est... Wow. C'est science, médecine. Lettres, je pense qu'il y a quelqu'un des lettres ici. Voilà.
Ouais, trois personnes.
Voilà. Sciences de la société, économie et management, droit. On a des personnes de droit ici, non ?
Oui.
Et voilà, toi. Théologie, psycho et sciences de l'éducation, avec notre psychologue.
Ah non, moi je suis plus.
Métier, okay, non. Et traduction, interprétation. Voilà, ce sont les neuf facultés.
C'est quoi la meilleure faculté et la pire faculté selon vous ?
Ah.
Oh. Oh. La meilleure faculté, indéniablement, c'est les lettres.
Quand même, oui.
Alors, en termes de fonctionnalité.
Non, clairement, en termes de fonctionnalité, pas les lettres. Mais...
On a les meilleurs bâtiments. Vous n'avez pas
oui, ça,
dans
c'est
la
vrai,
salle
ça,
EOG
c'est...
juste derrière la salle de shoot. Je suis désolé. On a l'école Club Migros. On a le palais de l'Athénée qui coûte une blinde. On a tout.
Mais excuse-moi, mais pour que tes bâtiments soient les meilleurs bâtiments, faudrait peut-être qu'ils soient ouverts.
J'avoue que les
écoute, nous, on n'a pas besoin de partager notre faculté avec des pouilleux en droit ou en management, enfin... Pire que ça, en médecine. Tu t'imagines certains cours,
c'est vrai que nous,
que
ouais, on partage. En fait, le truc, c'est qu'on partage nos bâtiments avec tout le monde. Et tu peux t'arrêter là. Genre, avec vous aussi, d'ailleurs.
Non, je crois pas qu'il y ait.
Si.
Oui, oui.
Ouais. Non, mais je l'ai. Ouais, est-ce que tu veux contredire où j'ai eu des cours?
Bon, Maria, avant qu'il commence à s'embrouiller.
En parlant de bâtiments, j'ai aussi une question par rapport à ça. Donc, combien de bâtiments liés à l'enseignement à l'Université de Genève, combien de campus liés à l'enseignement existent? Il y a combien de campus?
Est-ce que ça compte genre l'IFAGE, tout ce genre de trucs?
Non, lié à l'enseignement. Non,
vraiment, mais parce qu'il y a justement maintenant, vu que la fac de lettres est fermée, on a à peu près 10 endroits différents où on a cours. Donc déjà, on fait péter le ranking.
C'est ça. Genre, quand tu prends les lettres, tu peux mettre n'importe quoi en fait.
Mattel. Ouais.
Moi je dirais 9. Je reste sur 9, ça m'a porté chance avant.
En fait, chaque faculté, un truc genre du coup de 9.
Non, pas
chance. Ah, ok, ouais.
Non, mais il y a ces.
Alors, c'est combien?
Alors, moi j'ai Bastion.
Ouais.
Battel.
Oui.
CMU.
Ah, ça, on n'a pas compté.
Philosophe.
Ça rentre dans le campus de Bastion.
Ah,
subtil, subtil.
Après, on a Dufour.
Ouais.
Maille.
Mais attends, Dufour qui est plus proche des bastions que de.
Ouais. C'est considéré sur le site de l'Université de Genève.
Moi j'avais entendu.
C'est pas.
Voilà.
Il y a Karl Vogt aussi, non?
Oui. Oui, il y a Karl Vogt. Après, on a Sauverny. Je sais pas si vous savez.
Ah, c'est dans la forêt, c'est l'observatoire.
Oui, exactement, ouais. C'est à Versoix.
Ah, c'est super bon ça.
Et Sciences. Voilà.
Du coup, il y en a.
Donc...
7.
Ah, j'ai pas compté. Quelqu'un a compté.
Il y a entre 1 et 10.
Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Bon, et dans les rankings mondiaux d'université, l'UNIJ occupe elle quelle place?
58.
Non, elle est sortie du top 100.
Non, mondial.
Elle est sortie du top 100, justement.
Ah, c'est sorti.
Ouais, c'est sorti.
Bah, du coup,
c'est 100 et quelques.
120.
Ouais. Non, 109. Quand même, on n'est pas loin.
Ça va.
Mondial, quand même, ça fait. Enfin, c'est bien.
C'est quand même du lourd.
Oui, mais ouais. Elle était super bien classée en temps, et là, c'est.
Ouais.
C'est quoi, je sais pas comment ils comptent, mais.
C'est dû à quoi que ça a descendu?
Mais je crois que c'est parce qu'ils changent parfois un peu leurs critères pour classer. Du coup, parce que souvent, c'est le nombre de profs qui ont reçu des prix. Genre, si t'as plusieurs profs qui ont eu des prix Nobel dans ton uni, bah, ça fait péter le ranking. Mm-hmm. Et puis, il suffit que notre, qu'il y ait des profs qui meurent ou bien qui partent. Et ça, tu baisses dans les rankings.
Il y a aussi une autre chose qui est que maintenant, toute la recherche qui est faite en Suisse, qui reçoit de l'argent du Fonds National Suisse pour la recherche ou d'autres institutions comme ça, est obligée d'être publiée en open access. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de journaux extrêmement prestigieux qui veulent plus trop prendre de la recherche suisse. Mmh. Et les Suisses aussi ont moins d'intérêt à aller se faire chier, à aller contacter Nature, Springer et tous ces gens-là pour publier leurs recherches. Parce que finalement, il n'y en a pas forcément besoin. Mais évidemment, les Américains, ils comptent tout comme ça, quoi, parce qu'ils sont débiles. Okay.
Merci pour le petit complément. Peut-être qu'on aura, autour de cette table, peut-être qu'on a des futurs prix Nobel qui vont faire remonter les rankings de l'UNIJ.
Ouais. J'ai aussi une question sur les prix Nobel, si jamais.
Donc,
alors vas-y, fais péter.
Allez, il y a combien de prix Nobel, combien de personnes de l'Université de Genève vont gagner un prix Nobel?
Je dirais entre 10 et 20.
Là, non, j'ai aucune idée.
Alors, toute l'histoire de l'université, on est bien d'accord?
Ouais,
moi, okay. Je pense moins de 10.
Ça
existe
depuis combien de temps, les prix Nobel?
Il y en a en tout cas deux. Et je me dis, il y a bien un minimum 8 autres, un moment ou un autre.
Ouais. Quand même
5.
150 ans.
Chimiste, il était à Lausanne, du coup pas à Genève.
La Suisse a énormément de prix Nobel par population.
On est le pays qui a eu le plus de prix Nobel.
Par population,
proportionnellement.
Il y a une étude, ils ont fait une étude super marrante, où ils font linker le nombre, la quantité de chocolat mangé par personne, dans un pays, et le prix de prix Nobel par pays.
Ouais.
Et en
plus
fait,
tu manges de chocolat,
plus tu manges
plus
de chocolat, plus
tu
as de prix Nobel. Ouais. Mais c'est juste parce que la Suisse, elle fait péter.
Ce message est sponsorisé par Lindt. Du bon chocolat.
Ça pour rend toute la famille.
Il y en a 13.
Ah, okay.
Il y a 13 prix Nobel et ça va. Il y a pas mal. Il y a de la paix, il y a de l'économie, il y a de la physique. Et le plus, celui qui m'étonne le plus, c'est Kofi Annan. Donc, l'ex-secrétaire général de l'ONU, qui a eu le prix Nobel de la paix, il a étudié à l'Université de Genève.
Ok.
Donc, voilà, ça c'était...
Sacré fun fact.
Voilà, sacré fun fact. Kofi Annan était étudiant à l'Université de Genève.
Bon, après, le prix Nobel de la paix, il le donne un peu à tout le monde. Sans vouloir. Enfin...
Voir Barack Obama.
Ouais, tu vois, enfin genre, je veux pas critiquer, hein, mais c'est quand même
stylé. Non, mais on va critiquer.
Enfin, il y a qu'un seul prix Nobel de la paix, avec l'Université de Genève. Tout le reste, c'est...
Je vais pas faire ma science plus risquée là, non, mais c'est pas comme les autres, mais...
Ah non, il y en a deux, pardon, il y a deux prix Nobel de la paix.
C'est qui le deuxième?
Norman Angel, en 1933.
Qui connaît? Personne.
Qui connaît?
Okay. Non, next.
Ça a vraiment avec la Société des Nations à cette époque-là, qui est peut-être basée à Genève.
Ah.
C'est possible.
Je sais pas.
Pas beaucoup duré, en tout cas.
Et bon, on va passer à d'autres types de faits. On va dire, on va aller un peu avec les préjugés des facultés. Donc, par exemple, quelles sont les deux formations où l'on trouve la plus grande majorité de femmes?
Ouais, non, c'est bon, c'est nous là.
Psycho. Psycho.
Et non, 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 là, les noms. Ouais, sciences de l'éduc, 96%
ouais,
de femmes.
Psychologie.
Après, j'ai pas que c'est négatif. Hein.
Moi, j'ai
toujours
lettres aussi. Il y a pas mal de films. Hein.
Ça dépend vraiment de quel cours tu prends. Hein,
Tu prends.
Pas forcément. Pas
tu prends les études de Moyen-Âge et ils sont là. Haha, homme, grosse épée. Haha.
Dans mon séminaire de Moyen-Âge, il y a un homme. Non, il y en a deux. Il y a le prof et moi. Et vous êtes deux.
C'est pour ça que je dis que vraiment, en lettres, il n'y a pas beaucoup de garçons.
Moi, je pense sciences de l'éduc et psycho.
Alors, oui. Il y a en psycho et sciences de l'éducation, il y a un total de 2835 élèves et 2268 sont des meufs, donc voilà. La FTI, Faculté de Traduction et Interprétation petite, mais il n'y a que des femmes aussi.
Femmes.
Voilà, que des
femmes.
Aucun homme. Exactement.
0% de même. Les hommes, ils n'aiment pas traduire. Ils sont là, c'est de l'anglais, je ne parle pas anglais, du coup, je ne comprends pas.
Moi, c'est pas écrit en français, putain.
Oui, donc à l'FTI, on est 521 étudiants et étudiantes et 428 sont femmes.
Des femmes.
Et l'aide, c'est pas mal. Hein. L'aide, il y a 1777 étudiants et 1156, c'est des femmes.
Je l'avais dit.
À ce point-là?
À ce point-là. Ça, c'est des 2022.
Mais attends, mais elles sont où? Dans quelle faculté de lettres? Parce qu'en histoire...
Non, en histoire, c'est là où il y a le plus de garçons, j'ai l'impression. Parce que du coup, l'année dernière, il y a quand même pas mal de garçons. Mais en français, en espagnol...
C'est vrai que c'est dans les langues, ouais. En linguistique, on n'est pas beaucoup...
C'est quoi avec les femmes et les langues?
J'ai entendu parler que les femmes... Enfin, les filles, elles parlent plus vite. Elles commencent à parler avant que les garçons... On est tout petit, donc que les filles ont une facilité avec le langage, je sais pas.
Est-ce que ce serait lié à ça, peut-être?
En vrai, je pense que c'est surtout lié au fait que pendant très longtemps, on a associé les sciences dures aux hommes et les sciences plus ésotériques, psychologie, linguistique, qu'on appelle maintenant sciences molles, enfin qu'on appelait, associé plus facilement aux femmes. Donc je me demande si c'est pas lié à ça aussi et qu'il y aurait des restes de ce genre d'éducation.
Mais... Ou juste elles ont un peu plus de bon sens, elles vont pas en physique comme quelqu'un qui a du bon sens.
Voilà. C'est vrai que j'ai remarqué qu'en psycho aussi, quand tu regardes les profs, t'as presque que des profs hommes, ce qui est un pur non-sens quand tu vois que les auditoires c'est 90% des filles. Mais en fait, c'est hyper masculin. Toutes les branches sont hyper masculines, psychosociales, tout ça c'est très masculin, sauf les neurosciences, où là il y a que des meufs qui font des neurosciences, moi la première. Et du coup. Et parfois, j'avais un peu la réflexion que les neurosciences m'ont servi beaucoup plus tard. C'est une discipline qui a que 20 ans, à peu près. Et c'est très récent dans l'histoire de la psycho. Et du coup, j'ai un peu la sensation que toutes les filles se sont engouffrées là-dedans, en mode, il n'y a personne. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin de me battre avec d'autres hommes pour avoir la place. Et puis maintenant, la neurosciences, c'est un milieu que je trouve très féminin, comparé à d'autres disciplines plus anciennes.
Non, c'est intéressant.
Il y a moins de vieux.
Est-ce que tu as les chiffres, Maria, sur les facs les plus égalitaires, où il y a une part à peu près égale entre hommes et femmes?
Non.
Non.
Okay. Pas sûr, moi. Non, mais
je pense que, en vrai, tout ce qui est...
Économie.
Relations internationales ou économie, c'est plus ou moins...
Oui.
Il y a peut-être un peu plus de filles en relations internationales, mais je pense qu'on se rapproche du 55.
Moi, j'avais vu même la fac de sciences, il y a plus de femmes quand tu regardes la fac de sciences, parce que les deux plus gros départements en fac de sciences, c'est biologie et pharmacie. Et il y a beaucoup, beaucoup de meufs en biologie et pharmacie. Et du coup, quand tu regardes les moyennes, ça fait plus de filles que de gars en sciences.
Et à l'Uni, du coup, globalement, il y a plus de filles que d'hommes sur l'ensemble des facultés.
Sauf chez les profs.
Sauf chez les profs.
Sauf chez les doctorants.
Effectivement, c'est...
Non, j'avais vu une fois.
C'est particulier.
Ouais, c'était un peu atterrant, où en gros, plus t'avances dans les études, et puis plus la proportion de filles baisse, et la proportion de garçons-hommes.
Alors que de base, il y a plus de femmes.
En bachelor, par exemple, t'as plus de filles. En master, ça devient à peu près égalitaire.
Après,
en doctorat, t'as plus de garçons. Et puis chez les profs,
Putain, on soulève les vrais problèmes hein, dans cette émission.
Voilà, c'est ça. Moi, c'était, voilà, vous me proposez un quiz, mais moi, je suis là pour soulever des vraies questions.
Est-ce que tu as d'autres questions, Maria, encore à nous poser?
J'en ai une.
Vas-y.
Quelle est la faculté avec plus d'élèves?
Droit.
Non, sciences.
Lettres.
Science.
Ah oui, parce qu'il y a énormément de départements.
Il y a physique, il y a chimie, il y a biologie,
pharmacie.
Sciences de l'environnement.
En bio, ils sont une tête à chier.
D'être à chier.
D'avoir des nouvelles expressions.
Turbo-pété.
Oui, à sciences, ils sont presque 3000.
Oh. Ouais. Ah oui, ça fait quoi même, ça fait la moitié ça...
Bah, en tout cas, en 2022, il y avait 18 261 étudiants et 2850 étaient en sciences.
Mais les grosses facs, c'est comme nous aussi, on a une, enfin, en psycho et sciences de l'éduc, on était énormément parce que tu as plein de différentes branches. Alors que quand tu as que droit, bah, forcément, tu seras beaucoup moins.
Ouais.
Ouais. Et aussi médecine. C'est le top 3, c'est sciences. Sciences de l'éduc et psycho et médecine.
Mais bon, et médecine. Deuxième semestre, il y a moins de monde en médecine.
Le problème, c'est qu'ils sont 1000 en première année et 200 en deuxième année.
Ça devient la fac avec le moins de monde.
Ouais, du coup, qu'est-ce que ça veut dire après tout?
Est-ce que tu as une question sur les taux d'échec par faculté? Non.
Non.
Ah, dommage. Non. Pour la prochaine fois.
Médecine. Forcément. Non, à Lausanne, tu as sciences forensiques et là, je crois que c'est,
ouais, ça, c'est
5% de réussite, un truc comme
et
ça.
Relations internationales aussi, il y a pas mal d'échecs.
Ouais, je pense à Genève.
Premier semestre. Je pense. Okay.
Ouais. Mais problème avec relations internationales, c'est que si tu te fais virer, je crois, bah, du coup, ça touche tellement à plein d'autres facultés. Ils ont des cours avec ceux qui font de la Sciences Po, ceux qui font de l'économie et tout. Et du coup, quand tu te fais virer de relations internationales, tu peux pas t'inscrire en sciences politiques, par exemple.
C'est que seulement si tu avais pris la mention Sciences Po, je crois.
Ouais, mais du coup, ils ont quand même pas mal, passablement de cours en commun avec d'autres facultés, en fait.
J'ai regardé, c'était géographie. Ils ont 90% de réussite. Je dis, ah ouais, ils ont dû faire ça.
Après, ils sont au chômage, par contre. Donc,
Mais non, tu n'as pas réussi à tirer un trait.
Mais non, non, tu peux faire prof de géo. Prof de géo.
Éventuellement prof de géo.
Oui, aussi.
Bon, on va un peu se taire parce qu'en lettres, on n'a pas beaucoup plus d'avenir. Honnêtement.
No future.
Bon, avant de parler de notre avenir lointain, on va peut-être parler de notre avenir proche avec la suite de l'émission. Est-ce que tu as encore des questions, Maria, ou est-ce qu'on passe à la suite?
Non.
Bon, bah, en tout cas, c'était très sympa ton petit quiz. On a appris plein de choses. On va revenir très très vite tout à l'heure avec un autre jeu qui n'est pas forcément en lien avec l'université. Sarah, est-ce que tu veux expliquer un peu le but du jeu déjà?
Bah, en fait, c'est des débats. Donc, on va continuer sur la même lancée. On va tous débattre entre nous. Et puis, ouais, c'est un jeu de débat. Mais j'expliquerai les règles plus tard.
Mais c'est des débats sur des sujets de société.
Le jeu s'appelle Les gens qui. Donc, c'est sur les gens qui font une certaine chose.
D'accord.
Et on va voir, on va débattre sur ces gens.
Alors, restez avec nous. On fait ça juste après. Ozuna. Et c'est le retour sur Fréquence Banane, c'est toujours dans ton campus. On va jouer avec Sarah qui nous propose un petit jeu aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer les règles du jeu?
Oui, alors du coup, on va jouer au jeu qui s'appelle Les gens qui. Et c'est un jeu de débat. Donc, les règles du jeu, elles sont assez simples. On a tous dans nos mains des petites cartes. Donc, on a 4 cartes chacun.
C'est pas facile à dire.
C'est pas facile à dire, je confirme. Et donc, on a tous les mêmes cartes. On a une carte qui est écrite « Cœur sur vous ». Une carte où c'est écrit « peine de mort », une carte où c'est écrit « juste un doigt » pour un doigt d'honneur, et une autre carte où c'est marqué « un an de goulag ». En gros, le jeu, il est assez simple. Je vais tirer une carte, d'un autre tas de cartes. Je dis le mot de carte 40 000 fois, mais voilà. Et on va faire un petit exemple. Si je vous dis « les gens qui mettent leurs pieds sur le siège d'en face dans les transports en commun », vous avez... Donc, on a tous les mêmes petites cartes que je viens de l'expliquer tout à l'heure. Vous devez dire soit cœur sur vous, soit un an de goulag, soit ce que ces gens, du coup, qui font ça, méritent.
Ce que ça nous inspire.
Ce que ça vous inspire. Vous pouvez... Donc, il y a 4 manches. Et du coup, une fois que vous avez utilisé, par exemple, admettons, moi, je mets cœur sur vous, parce que j'adore les gens qui mettent leurs pieds sur le siège derrière moi.
Tout le monde adore.
Je vais devoir défendre et débattre sur pourquoi j'ai mis cette carte. Mmh. Et la manche d'après, j'aurai pas plus le droit d'utiliser la carte cœur sur vous. Donc, je la mets sur le côté. Et du coup, voilà. Et tout le monde fait ça. Du coup, on va débattre.
Et donc, à la fin, t'es obligé de...
De défendre, même si t'es pas d'accord.
De plaider pour un truc, voilà, ouais, de défendre un truc, vu que t'as plus la carte pour...
Ah, c'est ça qui est marrant.
C'est ça qui est drôle, en fait, du coup, exactement.
La dernière étape.
Donc, est-ce que vous avez tous compris le jeu?
Oui.
Ok, est-ce que vous êtes prêts à commencer le jeu?
Oui.
Oui. D'accord. Alors, je vais piocher une petite carte au bol dans le tas de cartes. Alors, les gens qui oublient toujours d'éteindre la lumière, qu'est-ce que ça vous inspire?
Qui Laisse. Commence
Est-ce qu'on fait un tour de table? Tous en même temps, ouais, on fait un tour de table. Il faut la mettre ouais, devant vous. Puis, moi, je mets ça. Hop. C'est bon? Ok. Alors, Hugo, qu'est-ce que t'as mis?
Moi, j'ai mis juste un doigt parce que, bon, c'est chiant, mais en même temps, je pense que ça mérite pas le goulag ni la peine de mort.
Ouais.
Ouais, par les temps qui courent, quand même. Laisser la lumière allumée, c'est pas génial.
Toi, tu dirais peine de mort?
Non, moi, j'ai mis un an de goulag, quand même pas, quand même pas. Je suis pas aussi radicale.
Moi, pas les.
Et vous avez tous mis aussi à peu près la même chose, du coup?
Moi, j'ai mis cœur sur vous.
Moi aussi.
Je pense que c'est pas non plus horrible. Et en termes de consommation, il y a des trucs pires que laisser la lumière allumée pendant un petit moment.
Bah, pour les gens qui ont peur du noir, je trouve ça tellement pratique. Donc moi, cœur sur vous, si vous oubliez d'éteindre la lumière, genre, merci le soir quand je me réveille et que je vais aller aux toilettes, la lumière est déjà allumée, je n'ai pas besoin de chercher l'interrupteur, de fracasser mon plafond. Et du coup, moi, je mets cœur sur vous.
Il est au plafond, ton interrupteur, toi?
Ouais, en plus, sur le plafond, enfin, elle a coûté sur mon mur, pardon, du coup, ouais. C'est vrai que le plafond, ça risque d'être compliqué. Mais du coup, moi, je mets cœur sur ces gens. Du coup, voilà. Est-ce que quelqu'un a mis autre chose que goulag, doigt d'honneur ou cœur sur vous?
Non. Personne n'a mis peine de mort?
Non. Bon.
Ouais, quand
alors,
même pas, c'est quand même un peu chaud.
Tout le monde pose la carte qu'il a utilisée devant soi et ne l'utilise plus jusqu'à la fin de cette manche. Okay. Et on va reprendre une autre question. Est-ce que vous êtes prêts? Les gens qui laissent l'ascenseur se refermer alors que tu arrives devant la porte. Ouh là là.
Ok.
Alors, voilà.
Alors, j'ai envie de mettre cœur sur vous à tout le monde, mais du coup, c'est trop tard.
Tu veux mettre cœur sur vous pour ça?
Moi, je le fais, donc... c'est plus horrible. Ok, c'est bon. Vous êtes prêts?
Ouais.
Alors, vous avez mis quoi, Hugo?
Cœur sur vous, parce que si t'es dans l'ascenseur et qu'il y a une deuxième personne que tu connais pas... et que tu prends l'ascenseur avec, c'est toujours gênant.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord.
Donc en vrai, quand t'arrives et que tu vois l'ascenseur se ferme, t'es là, au pire, c'est pas grave, monte, moi je monterai plus tard, tout seul, donc cœur sur vous.
Ouais, exactement la même chose. C'est que le soir, quand je rentre, j'ai tellement pas envie de parler à des gens, et je les vois se fermer, et je suis là, certes, je vais devoir grimper à pied à l'escalier, mais au moins, j'aurais pas besoin de parler du « Ah, il fait pas très beau aujourd'hui !»
Ouais, small talk.
Non, le pire, c'est pas parler, c'est juste les silences
bizarres. Ah oui, c'est ça.
Et tu dis juste, vous allez à quel étage? 5e.
Vous montez, vous descendez, vous sortez.
Merci de m'empêcher de
faire
ça.
Donc, cœur sur vous, clairement.
Pour moi, c'est un an de goulag. Moi, je me place de la perspective inverse. Pas de la perspective de la personne qui arrive, mais quand t'es dans l'ascenseur, t'as quelqu'un qui vient vers toi, qui a envie de rentrer chez lui le plus vite possible, et tu fermes la porte ou tu laisses la porte se fermer.
Pour moi, c'est bien dans les yeux en mode.
Ouais, c'est juste pas sympa. Enfin, je sais pas.
Oui,
de ce point de vue-là, je trouve pas cool. Et un petit silence gênant, ça a jamais tué personne.
C'est ton voisin et tu risques de le revoir, quoi. Enfin, c'est vrai.
Voilà,
le lendemain, c'est lui qui refait la même chose avec toi, en fait. Du coup, non, moi j'ai mis juste un doigt. Parce que du coup, j'avais
moi
pas.
Aussi. Moi aussi. Ouais. C'est juste chiant, mais il y a pire, quoi.
Bon, il y a pire.
Ça vous saoule, mais voilà, ça va.
Voilà, c'est pas si grave. On passe à la troisième question, au troisième débat. Je prends vraiment au bol dans le tard. Les gens qui ne savent pas garder les secrets.
Peine de mort.
Ouais, c'est bon.
Oui, alors moi aussi j'ai mis peine de mort.
Ouais, peine de mort.
Non, moi c'est un goulag. Parce que ça dépend quel secret.
Pourquoi? Comment ça?
Mais c'est toi qui évalues quel secret tu gardes et quel.
Oui. Mais si tu dis à quelqu'un quelque chose et que tu lui dis c'est un secret.
C'est un secret, quoi.
On saura que Maria, il ne faut pas lui donner... Enfin, il ne faut pas lui dire...
Elle évalue, voilà. Tu peux le dire ou pas.
Moi, j'ai mis juste à toi, parce que souvent, ce n'est pas grave. Enfin, genre, si les gens...
Si, ça peut briser une amitié.
Ça dépend.
Il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens qui sont tellement à cheval sur ça.
Ouais.
Ça, en fait, ça dépend juste des gens. Mais moi, j'ai mis peine de mort, parce que quand même, si c'est un secret, je suis en mode, vraiment, c'est un secret, et tu le dis à personne, et que deux jours plus tard, je suis en mode... Je me balade et que je croise quelqu'un qui me dit « Ah, mais ça va avec nanani, nanana, il se passait ça. » Je suis en mode « Waouh, comment il le sait, ça m'énerve. » Du coup, ouais.
Mmh. Bon, moi, ça m'énerve, mais c'est vrai que ça dépend des secrets. Donc, je pense que je vais partir sur un an de goulag.
Mais à partir du moment où tu sais que c'est un secret, pourquoi tu le dis si c'est un secret?
Il y a des gens qui n'arrivent pas à garder... ils oublient.
C'est mais ça dépend aussi si le secret c'est à toi et c'est toi qui racontes quelque chose qui c'est à toi à quelqu'un ou si c'est quelque chose de quelqu'un d'autre. Parce que là, t'as déjà...
mais dans le cas où c'est le secret de quelqu'un d'autre, là t'es justement en train de raconter un
exactement,
secret.
Exactement, ouais. T'es déjà en train de casser la première règle.
À partir du moment où, enfin pour moi, à partir du moment où tu racontes quelque chose, enfin où tu dis un secret, c'est que.
C'est ton secret.
T'as pas forcément de problème à ce qu'il soit diffusé, vu que.
Mm-hmm. Enfin, ça, moi j'aimerais.
Pas qu'il soit diffusé aux mauvaises personnes, mais.
J'aimerais souligner un truc, si on met un an de goulag, c'est quand même assez vénère déjà comme punition. C'est déjà assez intense. Donc je pense que ça suffit.
C'est vrai. Est-ce qu'on passerait pas à la quatrième et dernière question de cette manche ?
Vas-y.
Ok. Les gens qui vident le ballon d'eau chaude avant que tu prennes ta douche. Du coup, il reste une carte pour tout le monde.
J'avais oublié.
Quelle est la carte qui vous reste ?
Moi, je suis obligée de mettre cœur sur vous. J'adore prendre des douches froides. Mais un cœur.
Bah, apparemment, c'est bon pour la santé, donc ça peut être...
On essaye de voir le côté positif, quoi.
Moi, j'ai un an de goulag. Ça passe pour l'action, je trouve.
Moi, c'est peine de mort également. Voilà.
Mais après, une douche froide, apparemment, c'est super bon pour la santé. Donc,
ouais, mais en hiver, t'as vraiment pas besoin de ça. Quoi.
T'as vraiment pas que ça.
Non, le pire, c'est quand tu fais ta douche et que t'as encore de l'eau, tu te mets du shampoing dans les cheveux et que là, t'as plus d'eau chaude.
Ah oui, là, c'est horrible.
Et que t'as vraiment tout le shampoing mousseux dans tes cheveux, t'as une tête, tu peux pas faire autrement que... te doucher avec l'eau froide. C'est vrai que c'est pas top, mais ça refroidit les idées. Ça refroidit les du coup, on peut tous reprendre nos cartes.
Okay.
Si vous voulez refaire une autre manche.
Allez, faisons une deuxième manche avant Vidéo Club.
Ok, perfect.
C'est très très marrant comme jeu.
Alors, je prends complètement au bol. Les gens qui... Les chasseurs. D'accord. Donc je pense qu'on parle des chasseurs en général.
Très bien. Ça, c'est assez clivant, c'est assez politique.
Ouais, là, c'est politique.
Okay. Les chasseurs des quoi ? Je ne comprends pas. Des chasseurs des têtes, chasseurs d'animaux, chasseurs des quoi ?
Les chasseurs ou la chasse, c'est déjà pas la même chose. Parce que...
Bah, là, c'est marqué les chasseurs. Donc tout ce qui se rapporte à la chasse, je suppose.
Ceux qui tuent des animaux.
Ceux qui tirent des
animaux.
Moi, je ne sais pas.
Bon, d'un côté, c'est mieux que l'élevage intensif.
Ouais.
Non.
Gros débat politique.
Enfin, dans le sens, nous on dit ça, mais nous on achète, nous ceux qui sont pas végés, on achète quand même notre viande à la COP et on sait pas comment elle a été faite. Elle a été faite dans des conditions bien pires que quelqu'un qui va chasser en sanglier.
Oui, mais il y a aussi des gens qui vont se chasser juste parce qu'ils aiment bien chasser. Pour eux, c'est un jeu.
Ça dépend du point de vue. Si tu chasses parce que t'as besoin de manger,
on n'a pas besoin de chasser.
Oui, mais quelqu'un qui veut vivre en autarcie, qui veut chercher justement à avoir une empreinte, je sais pas, une empreinte carbone meilleure que d'autres.
Ouais, mais les chasseurs, c'est quand même un peu le stéréotype voilà, du chasseur un peu bourré,
gros beauf,
qui bute des animaux mais aussi des cyclistes et tout. Je pense que ceux-là ils méritent plutôt le goulag, voire la peine de mort.
Justement. Ah oui, mais les enflammants aussi, on parle du fait qu'ils sont complètement ivres. D'ailleurs, il y a eu une loi en France maintenant.
Ils n'ont plus le droit de boire.
Ils ont quand même réussi à dire ah, mais c'est pas juste qu'on puisse plus tirer sur des gens. Pardon, des animaux bourrés.
Et des gens, parfois.
Des gens, parfois. Parce que les cyclistes, eux, ils ont le droit de conduire ivres. Alors que nous, les cyclistes n'ont pas le droit de conduire ivres.
Oui.
Et de toute façon, c'est pas la même chose.
Mais c'est quand même fou que jusqu'à maintenant, ils avaient le droit de chasser bourrés.
C'est même un peu une tradition.
Bon, du coup, vous avez mis quoi ?
Tout le temps des accidents, quoi.
Sarah, elle veut qu'on...
Mais non, mais je sais pas, parce que moi, du coup, je sais même pas quoi choisir, parce qu'on a des arguments, mais en fait, moi, j'ai pas choisi
de carte. Moi, je dis un an de goulag.
Allez, un an de goulag.
Un an de goulag.
Peine de mort.
Peine de mort.
Peine de mort, carrément.
Bah oui.
C'est exagéré, là.
Tu tues quelqu'un, tu te fais buter. Loi du talion, on peut pas se réfléchir.
Oui, mais du coup, si on suit ta logique, du coup, ça serait, bah, si tu chasses pour ta propre survie.
Oui, après. Non, non,
non. Mais c'est l'avocat du diable juste avant.
Voilà.
Non, mais moi, c'est vraiment les personnes qui chassent et qui, à la limite, font la taxidermie et qui ont tous les animaux qui sont tués comme trophée.
Genre la tête de cerf sur la cheminée.
Ça ne te dérange pas?
Non, ça me dérange. Peine de mort.
Okay,
mais ça, c'est mon optique.
Ils font de ces trucs, franchement. Genre.
Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage d'un gars qui avait gagné au loto et qui est fan de chasse. Et en fait, oui, mais il est hyper connu ce reportage. Et en fait, il a, donc, non seulement il a son ex-femme, il l'a engagé dans son propre terrain. Et il a acheté un énorme terrain de chasse. Et du coup, bah, tous les week-ends, il invite tous ses amis et tout, et ils vont chasser. Je sais pas, ça m'a fait penser à ce reportage qui est vraiment hyper drôle. Ouais. C'est les gagnants du loto. Et genre, le mec, il est en mode... Alors, ma femme, elle m'a trompée. Et quand j'ai gagné le loto, je me suis vengée. Je l'ai embauchée avec son nouveau mec. Sur mon terrain de chasse. Je suis en mode, waouh, c'est trop drôle. Bref, petite anecdote comme ça. Et on passe avec la deuxième question. les gens qui parlent comme des bébés, mon Dieu.
Oh, avec la petite voix de bébé, là.
Je déteste ça.
Ça, c'est carton rouge.
Moi, j'ai mis peine de mort. Peine de mort, ça me dégoûte.
Non, moi, j'ai juste un doigt.
C'est débile.
J'ai pas la référence non plus.
En mode, il y a des gens qui parlent avec la voix de bébé.
C'est surtout les couples, en vrai.
En couple, ouais. Quelle horreur.
Mais qui ne l'a pas fait?
Mais la voix quand tu t'adresses à un bébé ou la voix d'un bébé?
Non, non, toi, imagine, admettons, tu parles avec...
avec ta meuf.
Avec ta meuf ou alors même avec des gens en général, tu lui demandes un service et t'es en mode...
Est-ce que tu pourrais te faire me donner un petit briquet?
Ah oui, ma phobie, je peux pas.
Putain, par contre, tu le fais bien.
C'est pas la non, moi j'ai mis peine de mort, je peux pas, ça me dégoûte.
Bah allez, juste un doigt, juste un doigt.
J'ai mis juste un doigt aussi.
J'aime bien les lettres excessives. Du coup, troisième question.
Putain, le chasseur.
Tu peux faire un chasseur avec une voix de bébé aussi.
Ah ouais.
Ou un chasseur de bébé aussi.
Ah là, j'ai vu un cerf, j'aimerais bien le tuer.
Ah, tu le fais bien,
j'ai vraiment faisais pour tuer. Et enfin, c'était un cycle.
On va couper le live.
Elle a fait des liens avec toutes les discussions qu'on a eues tout à l'heure. Ok, les gens qui se débarrassent d'un objet parce que le nouveau vient de sortir.
Alors là, peine de mort.
Moi j'irais juste un doigt.
Ah, mais moi je trouve que c'est tellement con. Il n'y a rien de.
Ouais, c'est débile, mais c'est eux qui perdent. Enfin, du coup.
Bah non, parce que du coup ils consomment énormément pour rien.
Ouais, mais ils perdent leur argent aussi. Donc en soi, ils ont aussi la punition de plus avoir d'argent.
Mais s'ils peuvent faire ça, c'est que. Enfin, s'ils
oui, ils ont quand même les moyens.
Ils ont les moyens.
Oui, c'est vrai.
C'est en général, c'est des enfants du système.
J'ai mis le cœur sur vous. J'ai mis le cœur sur vous parce que j'ai plus beaucoup de choix déjà. Mais aussi parce que, après, ces gens, ils remettent ça sur Marketplace et c'est moi qui les achète. Du coup, même si je sais que c'est exécrable pour ça, pour mon logement et pour tout ce que je possède, merci à Marketplace.
Merci, Marketplace. Et avec ça, on va faire la quatrième et dernière question qui est, attention, donc là on a tous une seule carte, donc on est obligé de défendre notre avis. Les gens qui mangent du cheval. Oh, bon, on est le thème de la viande.
La chasse.
La chasse, le cheval. Moi du coup, j'ai cœur sur vous, je suis obligée de le poser.
Moi aussi.
J'ai vraiment aucune envie.
Le cheval, c'est trop génial. Hop, cœur sur vous.
Bravo Sarah.
Moi j'ai mis un an de goulag parce que...
Et est-ce que cette carte?
Non,
pas seulement pour ça.
C'est des gentils animaux, les chevaux.
Moi, je pense que cœur sur vous, parce que les chevaux, il y en a beaucoup, donc c'est pas si on en bute un ou deux.
Ça a énormément.
Ça régule la population.
Je sais pas si vous avez déjà mangé les talons. Je crois que ça s'appelle les talons, mais c'est pas le talon cheval. Mais moi, genre, quand j'étais petite, j'ai déjà goûté. Franchement, c'était bon. J'ai plus repris ça depuis.
Moi, j'ai jamais goûté. J'arrive pas à manger de la viande qui ne se mange pas habituellement. Enfin, je trouve un peu bizarre.
Mais comment
le cheval?
Mais si tu sais pas.
Bon, j'ai jamais...
Genre dans des lasagnes.
Ouais.
Justement. Donc voilà, je peux pas m'imaginer. Je passe comme le lapin ou le pigeon, des trucs comme ça. Je peux pas non plus. C'est...
Le pigeon.
Le canard ou c'est le canard?
Canard, j'aime bien.
Canard, c'est très bon. Moi, je veux pas le canard.
Je suis désolée pour les petits canards, mais c'est bon.
Non, mais un canard.
Elle a dit.
Maria José, on est d'accord qu'un petit canard au restaurant chinois. Canard, la question ardoise.
Trop bon.
La quoi s'appelle? Aigle doux, il y a un truc aigle de laquée. Canard laquée.
Canard laquée, c'est trop.
Je crois qu'on va aller bouffer là.
Par ça, un truc qui m'avait choqué avec l'histoire des chevaux. C'est le fait que la majorité des chevaux de course, après leur fin de carrière, pour leur retraite, ils sont vendus en tant que viande.
Ah, ils finissent en lasagne.
Ouais, ils finissent en lasagne.
Ils sont abattus.
Donc, ton cheval, il fait 5 ans de course, il gagne masse de prix, et ensuite, c'est...
Tu le manges
dans le four.
C'est bien, il est multivalent.
Mais il faut avoir un bon cœur, un cœur dur, pour faire ça avec ton animal.
Mais non, c'est du recyclage.
On va recycler les sportifs aussi. Roger Federer, on le fout en lasagne.
Allez.
Et voilà, on a terminé le petit jeu. Merci d'avoir participé.
Merci,
et
puis,
merci. Et puis voilà. On se dit au revoir.
On se dit au revoir, ou peut-être à bientôt pour ceux qui restent. Le Bananaton continue. C'est pas terminé, restez avec nous. Dans un instant, il y aura Vidéo Club, l'émission sur le cinéma. Je crois qu'ils ont préparé plein de choses super chouettes. Donc ne quittez pas, restez avec nous. Vous les retrouverez juste après Big Mama et Riva Choupa Choup. C'est une musique que tu as choisie, Sarah. Est-ce que tu as envie d'en dire un mot?
Ah oui, alors c'est une amie à moi qui l'a entendue à Milan quand elle était à Bershka. On passait par là et puis elle était en mode « Attends, je vais chasamer, c'est trop beau, c'est trop stylé le son. » Et du coup, je l'écoute depuis 2 jours en boucle. Donc j'espère que vous, si vous allez le chasamer, enfin vous n'avez pas besoin parce qu'on vous a donné le nom.
Voilà, Big Mama et Riva Choupa Choup. On écoute ça tout de suite.
Campus.
Prochain arrêt dans ton
campus.
Il y a un truc qui est très très important, c'est
aller à l'école.
Campus.
Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard.
Je vais plus à l'école, c'est nul.
Campus.
Prochaine arrêt. Dans ton campus.